des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission spéciale car nous passerons cette heure avec le prix Nobel de littérature Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, né en 1952 à Istanbul, est l'auteur de plusieurs romans et récits qui ont marqué la littérature, comme Neige, comme Mon nom est rouge, comme Le musée de l'innocence. Orhan Pamuk est aussi un homme libre qui ne s'est jamais dérobé devant les pressions politiques et l'état du monde réel. Il prend parfois la parole dans la presse et observe ce qui l'entoure avec un regard critique, jamais naïf, tout en restant constamment littéraire. Orhan Pamuk est aussi un écrivain qui a réussi un miracle. Un miracle de fiction et de réalité, un miracle de volonté, en donnant vie dans le quartier de Çukurcuma, à Istanbul, au musée de l'innocence, qui était d'abord un roman. Un musée comme un roman, pour un roman comme un musée, que j'ai eu la chance de visiter avec lui il y a quelques années. Aujourd'hui, je retrouve Orhan Pamuk pour un film consacré à ce musée, Innocence of Memories, qu'il vient présenter au Festival Cinéma du Réel à Paris. Orhan Pamuk est l'invité du Temps des écrivains. Bonjour Orhan Pamuk.
Bonjour.
Je voudrais vous demander d'abord, je disais en introduction que vous êtes un écrivain, mais vous n'êtes pas en dehors du réel. Devant la situation du monde aujourd'hui, la guerre en Syrie, la Grèce au bord de l'abîme, la montée des populismes un peu partout, le terrorisme, la crise des migrants, que ressent l'écrivain que vous êtes face à ce monde de plus en plus chaotique ?
Il est tellement difficile d'équilibrer les sentiments de colère qui surgissent à la suite des horreurs politiques qui se produisent en Turquie et de maintenir son intégrité d'écrivain qui veut écrire de belles phrases, composer des monde nabokovien ou proustien face aux exigences de l'enthousiasme journalistique qui tue toujours cet enfant irresponsable qui est en moi, qui veut jouer avec des mots sans faire attention à nos devoirs moraux. Mais malheureusement, je dois dire des choses politiques au sujet de ce qui se produit avec les immigrants, avec la liberté de parole en Turquie. Tout d'abord, vous me posez la question sur la guerre en Syrie. C'est une conséquence terrible des printemps arabes et ces prétendus arabes n'ont pas apporté beaucoup de bien, malheureusement. Et maintenant, ces migrants. L'été dernier, la Turquie avait déjà 2,5 millions d'immigrants. Alors que l'Europe n'en prenait pas beaucoup. Et tout le monde était content avec la décision d'Angela Merkel de prendre 1 million d'immigrants, mais aussi elle fait marche arrière en raison des pressions dans son propre pays. Et maintenant, nous voyons que Angela Merkel et l'Europe sont en train de manœuvrer pour que la Turquie prennent le rôle, une sorte de filtre de ne pas permettre des musulmans indésirés et des asiatiques indésirés en Europe. Ce sont des choses qui sont moralement mauvaises. Je suis opposé au rôle antidémocratique d'une Turquie où la liberté de parole est limitée.
Et
on a une certaine reconnaissance de l'Europe grâce au filtrage des immigrants. J'espère que la Turquie va avoir une reconnaissance et un traitement égal de la part de l'Europe, mais pas parce qu'elle filtre les musulmans et les asiatiques, mais parce que la Turquie développe une démocratie totale. Pour moi, le problème, ce n'est pas le filtrage de musulmans et d'asiatiques indésirés, mais c'est d'avoir la liberté de parole en Turquie.
Il y a une phrase qui est très étonnante quand on regarde ce documentaire, Memories of Innocence, c'est que vous dites « la liberté de penser gagne du terrain ». Est-ce que vous n'avez pas dit cela dans le documentaire un peu trop vite ?
Mais j'ai dit que j'avais trois gardes du corps précédemment, et maintenant j'ai été élevé au grade d'un seul garde du corps. Je dis ironiquement que la liberté de parole se développe en Turquie. Si vous perdez votre ironie et votre humour dans une situation politique aussi déprimante, alors là, vous êtes mort. Mais bon, heureusement, c'est l'humour qui nous maintient vivants. Et ça me permet de faire des commentaires politiques de la façon dont je les fais. Au lieu de parler par slogan, je mets mes idées politiques dans une forme un petit peu plus élégante. Et puis, il faut accepter le fait que de passer de trois gardes du corps à un garde du corps, qui est une décision gouvernementale, est aussi une amélioration.
En France, en Europe, dans le monde entier, nous avons la tradition de faire parfois des personnages politiques, des figures de romans. Il y a eu par exemple Alfred Jarry avec Hubert Roy. Le pouvoir a toujours été finalement une source d'inspiration pour les écrivains. Est-ce que le président, l'actuel président de la Turquie, Erdogan, dont vous soulignez les calculs, ferait un bon personnage de roman pour vous ou pour d'autres ?
Je ne sais pas. Moi, je ne le pense pas, mais si vous pensez que les problèmes politiques de la Turquie viennent d'un personnage, d'une seule personne, du caractère d'une seule personne, alors vous êtes complètement à côté de la plaque. Nous avons un État autoritaire, nous avons une tradition extrêmement conservative, et si le caractère et la volonté d'une personne pouvaient résoudre ces problèmes, ça serait tellement facile. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Dans Neige, l'un de vos livres, dites-vous, le plus politique, en apparence, puisqu'il s'agissait aussi d'une histoire d'amour, comme dans Le Musée de l'Innocence, vous évoquiez le voile, de suicide, de filles voilées, vous parliez de la laïcité. Est-ce que le retour en force de la religion et la possibilité de nouveaux conflits dont vous parliez dans Neige, votre livre, est-ce que ce retour en force de la religion vous inquiète dans ce pays qu'est le vôtre, la Turquie ?
Dans Neige, je dramatise ce paradoxe. 70% des femmes turques, en raison de la tradition, portent des voiles sur la tête, des foulards. Et le gouvernement laïque turc à l'époque ne permettait pas à des femmes portant des foulards de rentrer à l'université. Je sais que vous avez eu un problème du genre en France, mais en France, la population musulmane représente moins de 3% de la population totale, je pense. Et c'était un problème dans les lycées aussi, mais pas tellement dans les universités ici. Et dans Neige, moi, j'ai vu cette tragédie d'une femme, une femme conservatrice qui voulait aller à l'université, la montée de l'islam politique et des problèmes de la démocratie. Les idéaux de l'Europe et les idéaux de l'appartenance, les idées de démocratie, que tout le monde a le droit à l'éducation, à aller à l'université, et les idéaux élevés de la laïcité, qui étaient en contradiction. C'était ça le sujet de Neige. Mais dans d'autres parties de ce roman, ça se déroule à la fin des années 90 en Turquie, l'islam politique, la laïcité, la place des femmes dans la société, ce sont des questions dont on s'occupe, que l'on traite. Mais à cette époque-là, dans les années 90, le livre est situé dans un pays où l'islam politique n'est pas au pouvoir. Et en fait, c'est une version un peu atténuée. Ils sont au pouvoir, mais on voit que ces problèmes ressurgissent à nouveau.
Et ils vont ressurgir de plus en plus.
Oui, mais c'est comme ça, c'est que les choses mauvaises réémergent de plus en plus, c'est comme ça.
Ma dernière question, Orhan Pamuk, sur ce sujet. Vous êtes romancier. On a du mal, en Europe, à comprendre, et c'est pour ça que je m'adresse au romancier que vous êtes, pourquoi, pour le gouvernement turc, et ce sera ma dernière question, pourquoi on a l'impression que les Kurdes sont un plus grand problème que l'État islamique? Parce qu'on a l'impression que le pouvoir turc combat moins activement l'État islamique que les Kurdes. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer?
En comparaison de la religiosité du gouvernement turc, les Kurdes sont plus laïcs. Et donc, ils sont plus impliqués dans la guerre en Syrie, parce que une partie des Kurdes vit également en Syrie et sont très heureux des bombardements américains.
Vous avez dit, quand vous avez réagi au prix Nobel, que vous pensiez que votre vie ne changerait pas. Et pourtant, quelques mois après, vous avez déclaré « Ma vie en a été bouleversée, la pression est plus grande, on devient soudain plus conscient de la réalité qui vous entoure ». Est-ce que vous pourriez expliquer cette phrase? Parce qu'on a l'impression, en vous lisant, qu'au fond, avant le Nobel, l'écrivain que vous étiez vivait comme dans une bulle ou un peu plus dans une bulle. Or, vous étiez déjà en prise avec le monde, en prise avec les tragédies du monde, les tragédies de votre pays, les conflits. Donc pourquoi aujourd'hui, avec le Nobel, vous seriez plus conscient de la réalité qui vous entoure?
C'est pas être conscient de la réalité, mais c'est être, avoir une responsabilité civile dans un pays où je suis, malheureusement, je ne suis que le récipiendaire du prix Nobel de littérature. Et quand j'ai dit que ça ne changerait pas ma vie, je voulais dire que je voulais continuer à écrire. Alors que beaucoup de gens considèrent le prix Nobel de littérature comme une retraite bien payée. Et en fait, mes livres sont fondés sur une sorte d'irresponsabilité infantile. On ne peut pas écrire aussi bien que je veux l'écrire en étant un diplomate qui fait attention à tous les tours et détours et tous les drames politiques.
Ah, c'est le téléphone d'Orhan Pamuk. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Quelqu'un m'appelle, je ne sais pas qui c'est.
Mario Vargas Llosa, qui a reçu aussi le prix Nobel, dit qu'un Nobel, ça vous enterre vivant. Que cela fait de vous une statue. Est-ce que vous pensez qu'il a raison?
J'aime beaucoup Mario Vargas Llosa. Et dans une dizaine de jours, nous aurons un débat au cours des cérémonies pour son 80e anniversaire. Mais je ne suis pas un écrivain. C'est un cliché. Hein, les journalistes demandent aux écrivains de se plaindre du prix Nobel. Moi, je suis content. Je suis heureux de mon prix. Ça m'a donné beaucoup plus de lecteurs. Oui, il y a une responsabilité politique avec laquelle je peux jouer un peu. Mais je suis très heureux de mon prix. Et je conseille à tous les écrivains, et c'est pas un problème d'avoir le prix Nobel et de pouvoir écrire ensuite. Et j'ai reçu mon prix jeune, et j'étais en cours de l'écriture du Musée de l'Innocence, et j'ai poursuivi, je l'ai terminé.
On a fait ici à France Culture la première grande interview de Modiano quand il a obtenu le prix Nobel. On était chez lui, là, comme vous et moi. Vous avez dit que la cérémonie du Nobel ressemble à un roman de Modiano. J'aime beaucoup cette formule. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est bizarre? Vous savez, Modiano, il dit toujours « c'est bizarre ».
J'aime beaucoup les romans de Modiano. Quelque chose comprend, mais ça prend très longtemps de savoir pourquoi. C'est ça l'impression que j'ai reçue de ses livres.
Nous poursuivons cette heure avec vous, Orhan Pamuk, et j'aimerais que nous parlions de votre ville, d'Istanbul, et de ce musée de l'innocence que vous y avez construit en rapport direct avec votre roman. Mais d'abord, on écoute votre premier choix musical, et vous avez choisi une musique qui est liée à ce musée, qu'on entend dans ce musée. Je vous laisse écouter.
Unutulmuş birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, unutulmuş birer eski dostlar, eski dostlar. Ne bir selam, ne bir haber. Eski dostlar, eski dostlar. Taşlar gibi eski dostlar, eski dostlar.
Eski dostlar. C'est eski dostlar. C'est un son qui était très connu dans les années 60 et 70. Eski dostlar. Qui est un musicien des années 60. De la musique classique moderne, disons, que j'écoutais, beaucoup. Et ici, les mots, les paroles sont importantes. Les paroles sont importantes, aussi importantes que la musique. Ça donne un petit peu une teinte mélancolique type années 60 sur l'amitié, le temps qui passe, soulignant le fait que les vieux amis sont tellement importants, mais leur visage s'estompe aussi. Soulignant aussi le fait que c'est un petit peu donnant une image plus brillante de la famille, des vieux amis, de la communauté à l'ancienne.
On se construit en regard d'une ville, aviez-vous déclaré au moment de la parution d'Istanbul, qui était un peu le roman de formation, le roman de la naissance de l'écrivain Orhan Pamuk. Vous avez grandi sur la rive européenne, dans l'immeuble Pamuk, qui se trouve dans le quartier Art Nouveau de Nitantashi. Comment, enfant, regardiez-vous la rive asiatique?
Bien que j'ai vécu côté européen toute ma vie, je suis né côté asiatique parce que le père de ma mère avait un bon ami médecin qui travaillait dans un hôpital qui était côté Asie. Donc, elle voulait aller de ce côté-là, en Asie, pour me donner naissance et me ramener du côté européen. Mais je vous raconte ça simplement pour que les Français comprennent que cette traversée du Bosphore, cette traversée du pont, on ne dit pas que... vous savez, on ne fait pas la différence entre rive est, rive gauche, rive droite à Paris. Ben, c'est pareil pour Istanbul. Quand je la regarde de ma fenêtre, quand je vois la Corne d'Or, le Bosphore, j'ai pas l'impression que je regarde l'Asie, que je pense à la Chine. Je suis beaucoup plus inquiet des gratte-ciels qui bourgeonnent, des grands buildings d'appartements et la destruction de la vieille, l'ancienne texture de la ville. C'est ce que je vois quand je regarde le côté asiatique.
D'ailleurs, vous le dites, hein, par exemple, la disparition d'un parc, d'un arbre, arrache des souvenirs à des millions de gens. Vous le dites dans le très beau documentaire Innocence of Memories.
Si vous vivez comme moi dans une ville pendant 63 ans, après un certain temps, cette ville devient, si vous voulez, un répertoire de votre mémoire. Vous marchez dans une rue, et puis la fois suivante, que vous êtes à nouveau dans cette rue, ces mémoires vous réassaillent. Vous traversez un pont quand vous êtes content, heureux, et la fois suivante, quand vous traversez le même pont, vous souvenez de votre joie, de votre bonheur. Donc, une ville est toujours un indice ou un répertoire de nos mémoires. Mais une fois que les bâtiments, les rues, l'architecture, la texture, les fontaines sont détruites, alors aussi les chemins vers notre mémoire sont détruits. Donc la croissance économique énorme au cours des 50 dernières années en Turquie a mené à la construction de beaucoup de gratte-ciel, de démolition d'anciens quartiers dans lesquels j'ai vécu, de rues que j'ai aimées, et ça m'a rendu en colère, pas politiquement tout de suite, mais la voie vers ma mémoire était coupée.
The road to my memory. Vous avez dit, Orhan Pamuk, je vous posais la question en fait, sur comment vous regardiez la rive asiatique, parce qu'on a l'impression, on vous voit comme un écrivain turc, quand même très très tourné vers l'Europe. Vous aimez l'Europe, vous aimez les écrivains européens. Et c'est vrai que vous avez dit, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour rapprocher la Turquie de l'Europe. On se dit, il a fait tout ce qui était en son pouvoir par ses livres. Visiblement, vous n'en avez pas fait assez dans vos livres.
Non, mais vous romantisez.
Ah oui, toujours, always.
Vous romancez le rôle de l'écrivain. Vous attendez que les écrivains en fassent plus.
Mais c'était une phrase de vous. Vous parlez dans vos livres d'un sentiment typiquement stambouliote qu'on appelle, pardonnez ma prononciation, l'usun ou l'ouzun, comment dit-on, c'est-à-dire un mélange de tristesse en noir et blanc lié à un sentiment de perte. Qu'est-ce que c'est cette usun? Comment on prononçait déjà?
Usun, c'est un terme arabe et turc pour le mot mélancolie. Dans mon livre autobiographique Istanbul, j'ai dit que le sentiment dominant donné par la ville, c'est la mélancolie. Peut-être que parce que cette ville était au seuil de l'Europe et très pauvre, et peut-être les bâtiments de l'époque ottomane qui sont en pleine destruction vous donnent ce sentiment de mélancolie. Et c'était aussi la philosophie de se tourner vers l'intérieur, ne pas être entreprenant, mais d'être modeste, ne pas réclamer quoi que ce soit. Eh bien, c'est ce que j'ai associé avec l'Istanbul de mon enfance, l'Istanbul des années 60-70, et ce sentiment a complètement changé aujourd'hui avec la ville elle-même.
Avec cette ville qui grandit, cette ville dont vous évoquiez les buildings qui croissent, qui se tendent vers le ciel, le Usun va disparaître.
Les villes en elles-mêmes n'ont pas des qualités fondamentales à part géographiques et architecturales. Donc l'architecture change, oui. Istanbul n'est plus la ville pauvre de mon enfance. Lorsque j'y suis né, c'était une ville d'un million d'habitants. Maintenant, on dit qu'il y a 15 millions d'habitants. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe aussi, en raison des problèmes politiques et sociaux qui sont complètement différents.
Dans le documentaire de Grungy, hein, Innocence of Memories, que vous présentez à Paris, très beau documentaire sur le musée de l'innocence, mais aussi sur votre Istanbul. Vous évoquez vos promenades nocturnes, vos longues promenades dans la ville, dans Istanbul, et vous évoquez, dites-vous, une image qui ne vous quitte jamais, celle d'un homme seul, errant dans un monde délabré. Vous continuez à déambuler dans cette ville la nuit et à poursuivre vos souvenirs de cet Istanbul de votre jeunesse ?
Yes.
Oui, j'aime bien me promener dans cette ville. Je me promène beaucoup dans les nuits d'Istanbul. J'en apprends tellement en le faisant. La ville garde peut-être ses anciens caractères la nuit plus que le jour. La caméra de Grungy fait attention aux dernières meutes de chiens qui dominaient Istanbul pendant 4 siècles. Gérald de Nerval et Théophile Gautier en ont écrit au sujet de ces meutes de chiens de façon très sensible. D'un côté, le merveilleux film de Grungy met l'accent sur mon vieil Istanbul des années 60, 70, 80, qui est en train d'être détruit. Et il fait attention aussi aux nouveaux gratte-ciels dû à la richesse économique de ces dernières années.
Vous disiez qu'on ne doit pas être essentialiste avec les villes, que les villes changent. Il n'empêche que cet homme errant, cette image qui ne vous quitte pas, c'est un homme qui erre dans cet Istanbul délabré. Est-ce que vous le quittez avec douleur, cet Istanbul de votre enfance, ou au fond, vous vous dites que c'est la vie et que vous allez devoir continuer à être l'écrivain d'Istanbul, mais dans un Istanbul totalement 21e siècle, de plus en plus 21e siècle.
Ce sont des sentiments contradictoires auxquels je dois me mesurer. Je crois aux idées de Scott Fitzgerald qu'on peut écrire un bon roman si vous êtes véritablement à l'aise avec des sentiments contradictoires, sincèrement. Je veux éviter les sentiments de la classe aisée de la nostalgie. Après le musée de l'innocence, j'ai écrit A Strangeness in My Mind. C'est un roman sur la classe ouvrière. C'est un camelot dans les rues d'Istanbul qui marche sans arrêt dans les rues d'Istanbul et qui vend des choses. J'aime voir ma ville de points de vue différents. En fait, le musée de l'innocence est à la fois une histoire d'amour et un musée sur le changement et les objets. C'est ma tentative d'écrire une histoire d'amour et de construire un musée avec les objets qui sont décrits dans le roman. Tenter de préserver à la fois la langue, la texture en littérature et des véritables objets en art et dans un musée.
Précisément, il y a un objet, j'ai eu la chance de visiter avec vous ce musée de Çukurcuma, hein, un quartier maison rouge, ocre rouge dans mon souvenir. On entre, on voit tout de suite la robe de Füsun, votre héroïne, et on voit un objet qui est un sac à main, de la marque Jenny Colon. Jenny Colon était le grand amour de Gérard de Nerval. Vous l'avez encastré dans cet objet, voilà, into a brand name, dans un nom, dans une marque,
dans une marque,
le sac à main.
Starting from Black Book, the Museum of Innocence, my name.
À partir du livre noir du musée de l'innocence, mon nom est connu, mes textes sont remplis de ces genres de jeux de mots et de plaisanteries privées. C'est des inventions pamukiennes que je continuerai de faire. Mais d'un autre côté, mes romans sont aussi... Il y a un côté épique. Même si ces petites plaisanteries très privées, vous ne les comprenez pas, eh bien, malgré tout, je donne l'intégralité de l'image, des chroniques, de l'histoire, de mes personnages, de la ville, d'une manière agréable.
Alors, quel était le sens de cette plaisanterie pamukienne ? Vous dites plaisanterie, mais au fond, est-ce qu'on ne peut pas lire ça comme la volonté encore de poursuivre, au fond, ces fantômes qui sont utiles à l'écrivain, qui sont utiles au travail, comme les obsessions, les fantômes qu'on poursuit. Là, c'est Gérard de Nerval que vous imbriquez dans ce sac à main. Il y a plein de références à Flaubert, il y a plein de références à Gautier. Est-ce qu'au fond, quand on est écrivain aussi, dans ces objets dont on va parler maintenant longuement et de ce musée de l'innocence, est-ce qu'il faut qu'un écrivain prenne avec lui cette littérature, ces écrivains qui l'ont influencé, pour les incorporer aussi dans sa fiction comme des talismans, des objets, un sac à main?
Eh bien, une des grandes choses au sujet de l'histoire de la littérature, c'est que, à l'extérieur du roman européen, c'est que, une fois que vous avez lu ces romans européens, eh bien, ils restent avec vous, partout et toujours. Et parce que je vis à Istanbul, ça me prête une vision tellement immense, parce que j'ai lu tellement de romans européens. Quand je suis à un coin de rue à Istanbul, un pont ou n'importe où, je me dis, mais qu'est-ce que Flaubert en aurait dit ? J'aurais aimé l'écrire d'une manière nabokovienne ou proustienne, mais aussi de façon pamukienne, bien entendu. Mon sentiment, c'est que, une fois que vous avez l'histoire de la littérature occidentale européenne dans votre cœur, eh bien, le monde entier vous parle. Le monde est toujours nouveau pour un écrivain qui croit en les livres. Je ne suis jamais pessimiste, je ne suis jamais déprimé au sujet de ce qu'il faut écrire, comment épingler le monde. Parce que mon enthousiasme au sujet des romans français et anglais a transformé Istanbul en quelque chose de nouveau pour moi. Et mon enthousiasme et mon amour pour la littérature occidentale a rafraîchi la Turquie, parce que personne ne l'avait vue de ma façon précédemment.
Et pourquoi uniquement la littérature occidentale fait cet effet-là ? Vous avez précisé, européenne, occidentale ?
En raison de l'hégémonie européenne, la littérature mondiale était occidentale et même britannique, pendant britannique et française, pendant une époque très longue. Les Russes, les Allemands, les Italiens, les Espagnols qui sont venus plus tard, eh bien, l'art du roman a été inventé dans les années 1850 par Dickens et Zola. C'est l'invention de Thackeray. Et peu à peu, par cercle concentrique, on est arrivé en Russie, à Tolstoï, à Dostoïevski, et puis après aux États-Unis. L'art du roman est une forme mondiale aujourd'hui. Tout comme la peinture, après l'invention de la perspective dans les tableaux post-Renaissance, maintenant c'est une vision mondiale et tout le monde voit le monde de la même manière. Mais j'accepte votre question comme étant une petite provocation. En fait, j'ai écrit mon nom est rouge pour pouvoir en discuter un petit peu. Est-ce qu'il y a des façons non européennes de voir le monde ? Pourquoi est-ce que c'est pas mondialisé ? Est-ce qu'on doit accepter un tableau post-Renaissance comme étant une peinture mondiale. Les miniaturistes indiens, les peintures chinoises, les peintres ottomans, arabes, voyaient le monde d'une façon assez différente de la peinture post-Renaissance, de Leonardo da Vinci ou de Michel-Ange. Mais la façon dont ils ont dépeint le monde, eux, a conquis le monde. Et les autres façons de voir le monde ont totalement disparu. Le drame dans Mon nom est rouge, c'est cela, mais ce n'est pas simplement un drame au sujet de la peinture et de la vision. Mais effectivement, suivant votre question, il devrait y avoir une autre façon d'écrire des romans. Et je dois avouer que franchement, toute ma vie, j'essaye de trouver cela. Et en fait, je trouve une consolation dans le fait que, au moins, en me retournant vers les textes classiques du soufisme, des allégories romantiques soufis, laissons de côté la religiosité, mais comme Borges ou Calvino, on peut les considérer comme des paradoxes ou des jeux littéraires. Toute ma vie est en fait, en littérature spécialement, est concentrée sur le fait de trouver des façons non européennes de donner la voix ou une voix au reste du monde. Pas parce que je n'aime pas la littérature européenne, pas parce que je suis en colère, mais peut-être en partie parce que les idées romantiques que j'ai apprises de l'Europe, leur originalité, l'idée de chérir l'invention, la créativité littéraire, mais nous nous écrivons de façon différente de Balzac, Flaubert et Dickens, bien que ce soit très difficile de le faire.
Alors, vous y avez réussi totalement, vous parliez de dimension créative, en faisant quelque chose que personne n'avait fait avant vous. On rêve tous, comme lecteurs, d'entrer dans un roman. Vous vous avez permis, mais vous allez nous expliquer, parce que c'est encore plus subtil que ça, vous avez permis au lecteur d'entrer physiquement dans un roman. Le roman s'appelait Le Musée de l'Innocence. Le musée s'appelle Le Musée de l'Innocence, puisqu'il y a maintenant le roman et le musée. Il est à Istanbul. Le film de Grandji, que vous présentez à Paris, en parle. Fabuleux documentaire. On en parle, mais on écoute justement un nouvel extrait musical qui passe dans ce musée de l'innocence. Vous allez nous expliquer après quelle est cette musique.
Peut-être que vos auditeurs sont surpris, mais ça, c'est pour moi de la musique. Parfois, c'est ce qu'on appelle le bruit blanc. Parfois, vous pouvez l'identifier avec les sirènes des bateaux, vous pouvez les entendre. Istanbul est une ville qui a des bruits de construction et de démolition incessamment. Et puis, il y a les mouettes, il y a les oiseaux, les bateaux, les voitures. Et une musique secrète que la ville vous donne incessamment. En fait, je prétends que non seulement nous sommes parfois heurtés, pas seulement lorsque les bâtiments sont détruits, mais lorsque ces sons qui sont de la musique à mes oreilles, en raison des changements de la vie matérielle, que ces sons disparaissent. Et à nouveau, les voies vers votre mémoire sont coupées. La musique, c'est peut-être un des éléments de la mémoire proustienne qui n'avait jamais été planifiée précédemment. Se souvenir involontairement grâce à la musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela que nous préservons la musique et le son d'Istanbul, qui est une musique à nos oreilles, dans ce musée d'Istanbul.
Alors, ce musée, donc je le disais, je l'ai visité avec vous, Orhan Pamuk, il y a quelques années. J'ai adoré ce moment. Alors, pour expliquer aussi à nos auditeurs, il s'agit donc d'une maison avec plusieurs étages. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais chaque vitrine correspond à un chapitre de ce musée de l'innocence, qui était donc votre roman. Donc, les vitrines sont les chapitres. Les chapitres sont les vitrines, et à l'intérieur, il y a tous les objets dont vous parlez dans ce roman. Alors, par exemple, la robe à fleurs de la jolie fille de la page 539, le cœur brisé du héros fou d'amour que vous incarnez sous la forme d'un objet, un vieux ticket de cinéma pour le film « Le goût suave du péché », le rire d'un enfant, l'enluminure d'un manuscrit moghol, vous en parliez, ou deux mouettes, pardon, se partage une figue mûre dont le jus coule, et même la petite culotte blanche de l'héroïne, une paire de tennis, tous les mégots de cigarettes qui ont été fumés en fait par Fuzun, votre héroïne. Chaque morceau de cigarette a un souvenir, une nuit d'amour, une dispute entre les deux amants. C'est absolument formidable. Il semble que vous ayez réalisé le rêve de ceux qui veulent entrer dans les pages d'un roman. C'est presque borgésien, et pourtant, quand on dit ça, vous dites « Non, ce n'est pas un canular borgésien, il fallait que je fasse le musée pour ne pas qu'on reste dans Borges. » Vous avez dépassé Borges.
La joie de l'écriture et de mon art modeste, c'est que c'est cette liberté et la joie de pouvoir jouer. Même dans le musée de l'innocence, mon attention aux objets et à la description, ça a à voir un petit peu avec le nouveau roman à la française. Borges, Calvino, Perec sont tous des auteurs qui m'ont inspiré, mais je voulais aller de l'avant et chroniquer le monde. Je prétends que les objets nous ramènent les mémoires oubliées et les objets nous racontent des choses. Le musée de l'innocence est, oui, c'est un roman, dans ce sens-là, que c'est une histoire d'amour romantique, et c'est aussi une histoire anthropologique de la façon dont on tombe amoureux, de la façon dont ça nous fait errer, comment on invente des nouveaux mondes, ou des choses que je fais personnellement, c'est un attachement aux objets, quelque chose qui est commun à tout le monde, quelque chose qui se trouve dans le cœur de chaque être humain. Chroniquer véritablement les objets. Je raconte une histoire et 4 années après, eh bien, je construis un musée à Istanbul que j'ai ouvert en 2012.
Vous expliquez que vous aviez longtemps réfléchi à un roman expérimental qui vous permettrait justement de, à la fois d'ouvrir un musée et de publier un livre. Est-ce que le musée de l'innocence pour vous reste ce roman expérimental que vous imaginiez ?
En partie. Je suis heureux de l'avoir fait. Et maintenant, dans le film de Grangy, nous le voyons comme faisant partie de mon monde. Grangy voit à la fois le musée, mon travail précédent sur la ville et ses personnages, la politique et les nuits d'Istanbul, et tout cela ensemble, entremêlé.
Orhan Pamuk, vous venez de nous expliquer comment s'était construit ce musée, parce que vous avez dû à la fois mettre des objets que vous avez trouvés chez les antiquaires d'Istanbul, qui correspondent à l'époque du roman. Vous avez aussi demandé à des amis designers de reconstituer aussi des objets et d'en créer de nouveaux. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, il y a plusieurs catégories d'objets dans ce musée. Des véritables objets, disons que ma famille, mes amis ont utilisé, ou des objets que j'ai trouvés dans des brocantes, chez des antiquaires, des marchés aux puces, ou des faux objets qui ont été inventés exprès pour cette fiction. Par exemple, le soda... Frutus qui est inventé, donc on a fait une pub inventée. On est parti d'un musée à l'ancienne à un autre niveau de musée où on a introduit aussi des objets fictifs que le visiteur peut croire réels, qui sont entremêlés avec de véritables objets historiques. Et je suis heureux avec mon implication à cette réflexion sur les musées. Que doivent faire les musées? Où doivent-ils aller? Et principalement dans le monde asiatique, les musées deviennent de plus en plus dans le style de musée du Louvre ou du British Museum, qui soit l'image d'une nation, d'un État, un symbole de la nation, ses couches d'histoire et de sophistication, démontrant ou exhibant sa sagesse, son histoire. Alors que je dis que les musées devraient être aussi basés sur les vies privées de simples citoyens, en présentant leur histoire personnelle plutôt que le drapeau ou l'histoire avec un grand H. Après le Louvre et le British Museum, au cours des 150 dernières années, l'humanité a avancé en littérature de l'histoire, de l'épopée des nations à des histoires avec un petit H individuel. Et moi, je dis qu'on devrait faire la même chose dans les musées. Les musées devraient être plus petits, concentrés sur des histoires individuelles, plus restreintes. Et quand on va à un musée, on ne devrait pas voir le drapeau ou l'histoire d'une nation, ou des rois et des reines, mais il faudrait voir les dimensions intérieures des êtres privés. Et pour cela, on a besoin d'un soutien gouvernemental, mais on a besoin de petits musées, de la créativité individuelle. Par exemple, en Chine, au lieu d'un très grand musée, Rem Koolhaas, ce qu'il a fait, je préférerais avoir des petits musées où on pourrait voir non pas l'histoire de la Chine, mais comment est-ce que les citoyens chinois, comment une femme chinoise, comment un homme chinois en colère se sent et ressent cette colère. La muséomanie marginalise la vie privée des individus. La singularité des aventures personnelles, quelque chose que l'Europe a inventé. L'Europe a aussi inventé les musées. Donc il faut que ces deux idées se rejoignent pour véritablement donner plus de lumière aux individus non européens.
Oui, d'ailleurs, vous comparez souvent les petits musées aux romans. Un roman est un petit musée et un petit musée vous fait penser à un roman. Mais on pourrait vous reprocher, Orhan Pamuk, vous dire, au fond, vous ne faites pas confiance en l'imagination du lecteur ? Vous avez besoin de lui proposer les objets physiquement ? Pourquoi ne pas lui laisser imaginer la robe de Fuzun ?
Mon musée des objets ne suit pas l'histoire. Mon histoire et l'histoire des visiteurs de mon musée, c'est que dans les deux, trois premières vitrines, ils suivent les chapitres du livre, du roman. Mais à la fin, ils voient que le musée de l'innocence, qui est illustré, c'est pas le texte du roman, mais les sentiments que le texte vous donne. Oui, oui. Le musée de l'innocence est à la fois texte et nouvelle et un musée. Mais ce n'est pas une illustration du roman. Mais plus, c'est une illustration des sentiments. Un sentiment tel que le huzun, la mélancolie d'Istanbul. Mais ici, c'est l'amour et l'attachement aux objets à une période de la Turquie et de l'histoire d'Istanbul.
Oui, mais si moi, lecteur français, j'ai envie de voir la robe de huzun différemment. Si le sac Jenny Colon, hein, on en parlait à propos de Gérard de Nerval, si j'ai envie de le voir différemment maintenant à cause de vous... elle est très belle cette robe et je l'ai vue. Mais à cause de vous, je vais la voir comme ça. Or, j'avais peut-être envie de la voir différemment. Vous avez forcé mon imaginaire, Orhan Pamuk.
Je comprends tellement bien vos sentiments que, au cours des 40 dernières années, j'ai demandé à mes éditeurs de ne jamais dessiner les visages des personnages. Ça, c'est la chose sacrée qu'il ne faut jamais donner de force au lecteur. La version cinématographique des grands romans comme Anna Karenine, moi je veux pas le voir. Moi ça m'énerve. Parce que ces films nous imposent des visages, mais des objets, des vêtements, des rues, ça devrait être dépeint de façon réaliste. Et finalement, les villes, et si j'écris au sujet d'une ville imaginaire, bon, ça serait difficile de mettre une image dans le livre, mais si j'écris sur une ville véritable ou sur de vrais objets, alors à ce moment-là, les lecteurs devraient être heureux, je pense, de les voir.
Pour écrire, vous avez besoin de caresser, par exemple, la robe pour donner vie à huzun, qui est un personnage, enfin c'est très ambigu, vous avez besoin de toucher ces objets ?
Excellente question. Quand j'ai voulu écrire Snow, la ville du Nord-Est, j'ai pris des photos, j'ai pris des objets, je les ai montrés à mes amis, et dans mon roman suivant, Strangers in My Mind, où je chronique la vie d'un camelot, d'un vendeur de rue, j'ai collectionné ces objets. Oui, je suis ce genre de personne. Je veux toucher, je veux sentir, humer les objets, les choses au sujet desquelles je veux écrire. Le lecteur ne doit pas obligatoirement voir les choses comme le musée de l'innocence. Mais d'un autre côté, maintenant, je collectionne ces objets, ces photos, je prends beaucoup de photographies, et avec l'idée que il y aura des éditions illustrées de mes livres. Nous avons déjà fait des versions illustrées du livre Istanbul, qui seront publiées ici chez Gallimard, et aussi, une version aussi illustrée de Mon nom est rouge. C'est un projet qui est né de la façon dont je travaille, dont j'accumule les objets, les films, les photos.
Umberto Eco n'aurait pas été d'accord. Umberto Eco, avec qui on avait fait une très belle émission, vous reprochait de prendre des photos toujours en vous disant « Non, Orhan, il faut que tu arrêtes de prendre des photos ».
J'aime Umberto Eco. Il est venu à Istanbul. On a eu une discussion ensemble et puis il m'a invité à son institut de sémiotique à Bologne où j'ai donné des conférences pendant une semaine. Il avait 20 ans de plus que moi et quand il m'a rendu visite à Istanbul dans mon studio, il était assis dans le vieux fauteuil de mon père, de mon grand-père. Je lui ai dit, et il m'a dit, je suis une sorte de père pour toi. Ce qui était vrai. J'en ai appris tellement de lui. Je l'aime en tant qu'individu parce que c'est une des personnes extraordinaires qui a toujours de l'humour. Quand on l'écoute parler, on sourit. Et c'est important parce que pour lui, sa maîtrise de langages, des langues, des sciences humaines. Il était très informé, mais c'était jamais pesant chez lui. J'aimais son attitude égalitaire
mais vous continuez à
vis-à-vis du savoir universitaire.
Mais vous continuez quand même à prendre des photos.
Yes,
bah oui.
Dernière question, Ran Pamuk, je voudrais qu'on se quitte par une citation du Musée de l'Innocence que je vais lire. À la vue de tous ces objets disposés sur leurs étagères, dans des boîtes et des vitrines, en se rendant compte de l'attention avec laquelle j'ai observé Fuzun 8 ans durant à l'heure du dîner, sa main, son bras, l'ondulation de ses cheveux, sa manière d'écraser ses mégots de cigarette, de froncer les sourcils, de sourire, ses mouchoirs, ses barrettes à cheveux, ses chaussures, la cuillère qu'elle tenait à la main, les visiteurs sentiront que l'amour est fait d'une constante attention, d'une immense tendresse. C'est un livre plein de tendresse, ce Musée de l'Innocence. C'est un livre aussi plein de sexe, de sexualité, de chair, d'amour. Il dit que l'un des moments les plus heureux de sa vie fut le moment où il entra dans Fuzun physiquement. Face au chaos, face aux illusions politiques, face à ce monde qui se déchire aujourd'hui, est-ce que l'amour, est-ce que la mémoire de ceux qu'on a aimés, c'est ce qu'au fond on aura eu de meilleur, comme on le dit dans l'éducation sentimentale ?
À la fin, ce qui est important, c'est l'attention que l'on donne aux choses, aux objets. Et ils sont tellement liés à l'attention que nous portons aux personnes. C'est aussi un fantôme qui entoure comme un aura cette personne. Les idéologies, les grandes pensées, la religion, les problèmes politiques sont secondaires pour moi. Pour moi, les histoires personnelles, l'histoire de quelqu'un d'autre, et les couleurs, les objets, les photos qui sont autour de cette personne, comme une aura, c'est ça l'important.
Merci beaucoup, Orhan Pamuk.
Merci beaucoup, that was great.
Prochain roman, A Strangeness in My Mind, qui sortira en France début 2017. À bientôt alors, Orhan Pamuk.
I'm hoping to see you soon.
C'était Le Temps des Écrivains, une heure avec Orhan Pamuk. Le Temps des Écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et à la technique Olivier Leroux. Orhan Pamuk était interprété par Michel Zlotowski.
Thank you.